Il est maintenant 18h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris, et c'est Radio France Internationale que vous écoutez. Voici une nouvelle demi-heure d'informations consacrée à l'actualité en Afrique. C'est avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. À la une, l'île Maurice qui célèbre l'accord historique signé hier avec Londres sur la rétrocession des Chagos et qui prévoit le maintien d'une base militaire sur l'île de Diego Garcia. En RDC, Joseph Kabila doit s'exprimer ce soir sur YouTube au lendemain de la levée de son immunité. Une mesure qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président congolais accusé de complicité avec le groupe armé AFC M23. Dans l'actualité également, l'inquiétude de l'ONU sur la situation au Mali. Elle dit craindre des arrestations arbitraires après la dissolution des partis politiques par la junte. La guerre au Soudan, le gouvernement rejette les accusations des États-Unis et dément le recours à des armes chimiques. La culture et le 78e festival de Cannes qui touche à sa fin. Plus de 4000 journalistes originaires de 90 pays sont présents sur la croisette. Parmi eux, David Hervé Onla, le fondateur du site culturel Oxygène Mag, basé au Burkina Faso. Il nous racontera son parcours. C'est la fête à Maurice au lendemain de l'annonce officielle de la rétrocession à Chagos, à Maurice, par le Royaume-Uni. Le gouvernement mauricien a tenu à marquer l'événement. Et pour célébrer cette page historique, une cérémonie solennelle s'est tenue à l'hôtel du gouvernement à Port-Louis aujourd'hui. Chagossiens, membres du gouvernement et une petite foule se sont rassemblés pour assister à ce moment symbolique. À Port-Louis, Abdoulaye Rally.
À Port-Louis, l'hôtel du gouvernement était aux couleurs nationales. Une petite foule tenait à ne pas manquer l'événement. Parmi ceux qui attendaient ce jour depuis des décennies, Olivier Bancoult, leader du groupe réfugiés Chagos.
C'est un jour vraiment très historique. Le fait qu'après tant d'années, on a bataillé pour nos droits fondamentaux et relogé chez notre terre natale, là où on a pris naissance.
Le traité de rétrocession des Chagos à Maurice prévoit le retour des Chagossiens sur leur terre, à l'exception de Diego Garcia, qui reste sous bail américain. Suzel Baptiste, née à Diego Garcia en 1965, attend ce moment avec impatience.
Moi, je suis née à Diego Garcia, je suis née le 25 janvier 1965, et je suis née un frère jumeau, et ma maman Tchinchechéloa, mon papa est mauricien, on est né là-bas. Mais malheureusement, on n'a pas pu vivre comme d'autres familles dans les propres pays là où ils sont nés.
Les États-Unis conservent leur base pour 99 ans. En contrepartie, Maurice recevra du Royaume-Uni près de 200 millions d'euros par an pendant 28 ans. Mais le traité n'est pas encore en vigueur. Il doit encore être ratifié par le Parlement britannique. Abdoulaye Erali, Port-Louis. RFI.
Afrique Soir, 19h33 à Kinshasa en RDC. Le Sénat a donc voté hier soir à une large majorité la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23, rébellion qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. Et la justice militaire peut donc engager des poursuites à son encontre. Les sénateurs ont largement suivi les recommandations de la commission spéciale mise en place la semaine dernière et qui, dans ses conclusions, recommandait hier la levée de ses immunités à Kinshasa, Pauline Azidi.
Selon les sénateurs, le procureur militaire aurait donné des arguments convaincants, même si les preuves avancées n'ont pas pu être communiquées aux élus en raison du secret de l'instruction. En revanche, on sait que le camp de Joseph Kabila conteste cette procédure au Sénat, estimant qu'en tant qu'ancien président, c'est au Congrès qu'il revient de lever les immunités. Un recours est donc envisageable. Cette levée des immunités arrive dans un climat de tension politique. Plusieurs membres du PPRD ont eu maille à partir avec la justice ces derniers mois. D'ailleurs, le parti de Kabila est sous la menace d'une procédure judiciaire en vue d'une suspension. D'autres opposants sont aussi dans le collimateur des autorités judiciaires. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été condamné cette semaine à 10 ans de prison pour détournement de fonds. Moïse Katumbi et plusieurs de ses proches sont eux réfugiés à l'étranger. Des conditions pour certains observateurs qui pourraient compliquer l'organisation d'un dialogue national. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et Joseph Kabila, l'ancien président congolais, doit s'exprimer ce soir sur YouTube au lendemain de la levée de son immunité. Alors quels sont les éléments concrets qui permettent à la justice militaire de l'accuser de complicité avec la rébellion de l'AFC M23? Nicolas Sûr a posé la question à l'invité d'Afrique Midi, Bob Kabamba, enseignant en sciences politiques à l'Université de Liège.
Quand on lit le réquisitoire de l'auditorat militaire, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effets concrets et on n'a que des éléments qui sont rapportés et constituent les preuves pour l'auditorat militaire.
Il y a tout de même ce témoignage d'un collaborateur de Corneille Nanga, une conversation qui aurait eu lieu entre lui et Joseph Kabila autour d'un plan orchestré par le Rwanda pour assassiner Félix Tshisekedi. Pour vous, ce témoignage n'est pas à prendre au sérieux.
Je vous rappelle que lors du procès de ce collaborateur de Nanga, ces derniers les avaient réfutés en disant que ce sont des aveux qui ont été obtenus par les services des renseignements militaires congolais sous la torture. Et depuis ce moment-là, on n'a plus jamais fait état de cette conversation, jusque le réquisitoire de l'auditeur militaire.
Joseph Kabila, qui a été silencieux depuis son départ du pouvoir, a tout de même lancé ces derniers mois une véritable offensive médiatique et son entourage a annoncé qu'il s'était rendu à Goma. Que cherche en fait le président Kabila ?
Ce qu'on peut essayer de dire, c'est qu'il y a d'une part une opposition politico-armée qui est menée par l'AFC M23 et qu'il y a aussi une autre force politique non armée qui est constituée de diverses personnalités comme Matata Ponyo, l'ancien premier ministre, comme Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, et Mafartin Fayoulou qui est aussi candidat perdant des dernières élections. Mais cette opposition ne parle pas d'une seule voix. Or, pour qu'elle pèse sur l'espace politique congolais, il est impératif qu'elle se réunisse. Et je pense que Joseph Kabila essaye justement de réunir cette force puisse essayer d'apporter sa pierre à la contribution dans la résolution des problèmes que connaît le Congo aujourd'hui.
L'immunité parlementaire de Joseph Kabila est donc levée. Pensez-vous que le pouvoir ira jusqu'au bout, jusqu'à un procès ou une condamnation au risque de pousser l'ancien président dans une position encore plus radicale? La question ici est bien celle d'un éventuel pouvoir de nuisance de Kabila. Est-il réel ce pouvoir de nuisance?
Le pouvoir de nuisance est réel. On va s'attendre à ce qu'il puisse y avoir un procès, comme pour le cas de Matata, avec une condamnation ferme, mais aussi avec confiscation de biens, parce que c'est devenu à la mode. Ça va certainement pousser Kabila à préagir, soit une réaction politique, soit aussi essayer d'utiliser les seuls moyens que Kinshasa entend, ça veut dire les moyens militaires. Et donc on pourrait peut-être avoir une offensive militaire quelque part d'un groupe, un autre groupe armé, comme on a déjà vu en Ituri avec le Thomas Lubanga, qui a aussi pris la même logique, prendre les armes pour se faire entendre à Kinshasa.
Bob Kabamba, enseignant en sciences politiques à l'Université de Liège, avec Nicolas Sûr. En bref, en Ouganda, un tribunal a refusé ce vendredi d'examiner la libération sous caution de Kizza Besigye, prolongeant ainsi la détention de l'un des principaux leaders de l'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est, Kizza Besigye, qui est poursuivi pour trahison, un crime passible de la peine de mort. Et puis la militante ougandaise Agather Atuhaire, détenue au secret depuis plusieurs jours en Tanzanie, a été retrouvée ce vendredi à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Elle présente des traces de torture, selon des défenseur des droits humains. Elle avait été arrêtée lundi, en même temps que le militant kényan Boniface Mwangi à Dar es Salaam. Lui a été libéré hier. L'opposition et plusieurs ONG s'alarment du climat de répression de l'opposition en Ouganda et en Tanzanie à l'approche des présidentielles prévues respectivement en 2026 et 2027. Au Mali, depuis 10 jours, les partis politiques et les organisations du pays sont dissous. Toutes leurs activités sont interdites. Les intellectuels maliens ont publié ces derniers jours une tribune dans laquelle ils font part de leur inquiétude. D'anciens dirigeants de partis ont déposé des recours en justice pour contester cette dissolution. Et aujourd'hui, ce sont les experts indépendants sur les droits humains et des libertés mandaté par l'ONU, qui se disent inquiets. Selon eux, cette mesure ouvre la porte aux arrestations arbitraires des acteurs politiques, mais pas seulement. David Bachet a joint Eduardo González à la tête de ce groupe d'experts.
C'est une menace, pas seulement pour les acteurs politiques, mais pour tout citoyen malien, parce que la population a un droit d'avoir des opinions sur la marche du pays, d'avoir des idées, des critiques et de faire des contributions à cette marche du pays. Donc, l'interdiction des activités des partis politiques, finalement, c'est l'interdiction de toute pratique politique. En fait, c'est une porte ouverte pour les abus contre les citoyens qui se prononcent sur la marche du pays. Les abus ont déjà commencé avant ce décret. Il y a des détentions arbitraires, des opposants, certains qui appartiennent à des partis politiques, mais aussi certains qui sont simplement des citoyens préoccupés par la situation du pays. On a déjà dans le Mali un certain modèle de répression, des arrestations arbitraires, des abus judicialisés et aussi des personnes qui ont été arrêtées et on n'a pas information sur leur situation, sont disparues. Donc, ce modèle existe déjà, mais le décret va formaliser ce modèle, va renforcer ce modèle.
Et les autorités maliennes de transition assurent que cette dissolution des partis politiques n'est qu'une étape d'un processus visant à assainir la vie politique malienne. L'écriture d'une nouvelle charte de partis politiques maliens est annoncée. Elle doit fixer des règles pour créer de futurs partis dont le nombre sera restreint.
Conakry 89.9 FM.
Et en Guinée, la question que tout le monde se pose, le retour à l'ordre constitutionnel aura-t-il bel et bien lieu cette année? C'est ce qu'avait laissé entendre le Premier ministre Bahouri la semaine dernière à Abidjan en annonçant la tenue de la présidentielle et des législatives pour la fin d'année. L'annonce n'avait fait l'objet d'aucun décret officiel de la junte du CNRD, mais surprise hier, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a tenu une conférence de presse durant laquelle il s'est montré plus réservé sur la question du scrutin, Sidi Yansané.
Alors que le général Amara Camara expliquait aux journalistes les raisons du récent décret présidentiel sur le retrait de dizaines de titres miniers, il en a profité pour parler politique et nuancer les propos que le Premier ministre Bahouri a tenus à Abidjan devant un panel d'investisseurs au premier jour de l'Africa CEO Forum, hors des canaux officiels et habituels de la junte du CNRD.
J'ai entendu récemment une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement qui a dit que cette année on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Vous voyez aujourd'hui l'engouement et tout ce que ça suscite d'aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent puisqu'on vit parmi vous. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on aura une constitution, après on avancera.
Et cette nouvelle constitution fera l'objet d'un référendum le 21 septembre prochain, a rappelé et garanti le porte-parole de la présidence. La question de la présidentielle et du retour à l'ordre constitutionnel en général est d'autant plus sensible que la campagne de recensement de la population, à partir duquel sera tiré le futur fichier électoral, accuse des retards importants, notamment à cause du manque de kits d'enrôlement biométrique et d'agents recenseurs, d'après les sources jointes par RFI.
C'est Lyon Sané, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h40. À Dakar, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould El Razouani ont officiellement lancé l'exportation du gaz naturel liquéfié. Ils étaient en visite hier sur le site de la plateforme de la Grande Tortue. C'est au large de Saint-Louis où l'exportation de gaz a commencé en avril. L'occasion pour le président du Sénégal d'annoncer qu'une partie de ce gaz produit sera à terme destinée au marché local. Léa Lisa Westerhoff.
D'ici 2027, 20 à 25% de gaz liquéfié produit au Sénégal servira à approvisionner le marché local pour produire de l'électricité. C'est ce qu'a annoncé Bassirou Diomaye Faye hier. L'objectif est de faire baisser les prix de l'énergie alors que l'électricité coûte très cher au Sénégal. Pour acheminer ce gaz, il faudra d'abord construire un gazoduc. Le contrat de construction a été signé selon les autorités. Un gazoduc qui permettra d'acheminer ce gaz vers la future centrale électrique dans le nord du pays. L'exploitation du gaz à une dizaine de kilomètres au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes et son exportation ont commencé dès la fin du mois de février, l'objectif étant d'arriver à 2,3 millions de tonnes de gaz liquéfié produites chaque année. Pour le Sénégal et la Mauritanie, l'enjeu est aussi financier. Après beaucoup de retard dans la mise en service et 5 mois de production, les deux États ont reçu autour de 3 millions de dollars chacun, selon une source bien informée. Le président du Sénégal l'a redit hier, ce projet n'a de sens que s'il est un levier de développement local, rappelant la création de 3 000 emplois direct et indirect. Pas un mot, par contre, n'a été prononcé sur une possible renégociation du contrat d'exploitation avec BP et Kosmos Energy, comme les autorités sénégalaises l'avaient dans un premier temps évoqué. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En bref, Amnesty International réclame la libération sans condition des personnels de santé détenus pour avoir participé à un vaste mouvement de grève en Éthiopie. 47 d'entre eux accusés d'avoir mis en danger la vie des patients ont été interpellés. Une vingtaine sont retenus au siège de la police à Addis Abeba. Le secteur de la santé est en grève depuis le 12 mai. Les professionnels réclament une hausse des salaires. Et puis, dans l'actualité également, la guerre au Soudan et cette annonce faite hier par le département d'État américain. Les États-Unis vont sanctionner les autorités de Port-Soudan pour avoir utilisé des armes chimiques dans le conflit conflit qui les oppose aux forces de soutien rapide, les FSR. Selon le département d'État américain, l'armée soudanaise a fait usage de ses armes l'année dernière. Gaël Alex.
Le communiqué du département d'État reste très laconique. Les autorités américaines ne se prononcent pas sur la nature des armes utilisées. Elles ne donnent pas non plus de détails sur les lieux, dates et cibles visées par ces attaques chimiques. En janvier, une enquête du New York Times avait cependant révélé que l'armée soudanaise a utilisé du chlore sous forme gazeuse deux fois en 2024 contre des positions des forces de soutien rapide. Le chlore s'attaque aux yeux, à la peau, aux voies respiratoires et peut se révéler fatal. D'après des officiels américains cités par le journal, ces armes ont été déployées dans des campagnes isolées, mais certains redoutent un usage dans des zones densément peuplées comme les villes que se disputent encore l'armée et les FSR. Le département d'État américain reproche donc au Soudan de ne pas avoir respecté la convention sur les armes chimiques, dont il est pourtant signataire. En conséquence, des sanctions seront prises comme des restrictions sur les exportations américaines à destination du Soudan ou la suspension d'aides financières. Ces mesures seront mises en application le 6 juin. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
En Afrique du Sud, 260 mineurs sont bloqués sous terre après un incident survenu dans une mine d'or à l'ouest de Johannesburg. Les opérations pour les remonter à la surface sont en cours. Selon la direction de la mine, ils sont sains et saufs et ont reçu de la nourriture. L'Afrique du Sud, toujours par ailleurs très choquée par les accusations de Donald Trump selon lesquelles les fermiers blancs africaneurs sont victimes d'un génocide. En outre, les affirmations selon lesquelles la plupart des victimes de meurtres dans les fermes sont blanches constituent une déformation des statistiques. Déclaration aujourd'hui du ministre de la Police, Senzo Chounou. Son nom a été synonyme de violence commise au Cameroun, en particulier à la fin des années 2010, début 2020 aux États-Unis. Eric Tano Tato s'est rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Ce ressortissant camerounais, installé dans le Maryland, est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones et d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à enlever des civils camerounais. Amélie Tulé.
Sur les réseaux sociaux, il était aussi connu sous le pseudonyme Gary Master, le Gary, nom de code choisi pour désigner des sévices infligés aux habitants considérés comme ennemis de la cause séparatiste. Avant de s'exiler aux États-Unis, Eric Tano Tato était journaliste, originaire de Mamfeh, dans la région du Sud-Ouest. Au Cameroun anglophone, des groupes armés se forment en 2017 pour revendiquer l'indépendance du territoire qu'ils appellent Ambazonie. Et selon les enquêteurs américains, c'est à partir de 2018 que Eric Tano Tato organise des collectes de fonds pour fournir des fusils aux Amba Boys. Il appelle aussi à commettre des violences contre les civils, meurtres, enlèvements et mutilations, l'expression « petit Gary » désignant ainsi l'ablation des doigts. Selon l'acte d'accusation américain, Eric Tano Tato et ses complices auraient ciblé des fonctionnaires municipaux camerounais, des chefs traditionnels et des employés de la CDC, une entreprise publique de culture, transformation et vente de bananes, huile de palme et caoutchouc. Eric Tano Tato aurait ainsi personnellement publié des centaines de messages sur les réseaux sociaux, consultés par des dizaines de milliers de personnes.
RFI 20h48 ici à Paris. L'actualité hors Afrique, c'est avec vous Philippe Le Caplain.
Donald Trump remet ça. Le président américain menace à nouveau d'augmenter les droits de douane. Je recommande d'imposer 50% de droits de douane sur l'Union européenne, affirme le président. Ce qui a immédiatement tiré les bourses européennes vers le bas, notamment les valeurs du luxe et de l'automobile. Wall Street a également ouvert en baisse. Donald Trump met une fois de plus la pression sur l'UE, son premier partenaire commercial. À Gaza, les Palestiniens subissent aujourd'hui la période peut-être la plus cruelle de ce cruel conflit. C'est ce que dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui décrit une population affamée, constamment déplacée. Le Conseil de l'Europe, pour sa part, est revenu sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Des actes qui, je cite, vont dans le sens d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. Et devant cette situation dans la bande de Gaza, une vingtaine de sociétés de journalistes françaises, dont celle de RFI et de France 24, demandent aux autorités l'évacuation des collaborateurs des médias français, de ceux qui nous aident chaque jour à vous informer car ils sont en danger de mort à cause des frappes israéliennes. Une attaque au couteau en Allemagne, dans la gare centrale de Hambourg, dans le nord, 12 personnes blessées, plusieurs se trouvent dans un état critique, un suspect a été arrêté. Le début d'un échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, au total 1000 hommes doivent être échangés de part et d'autre. Pour le moment, les deux camps ont annoncé avoir récupéré plusieurs centaines de personnes, chacun, militaires et civils. Un échange commenté par le président américain sur son réseau social. Félicitations, cela pourrait conduire à quelque chose d'énorme. Afrique Soir, avec vous Sylvie Berruet, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire.
Oui, puisque ce 23 mai, la France marque la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Une journée de commémoration qui a un écho particulier en Côte d'Ivoire. Selon les archives, près de 100 000 habitants de l'actuelle Côte d'Ivoire ont été envoyés de force vers les Antilles et l'Amérique au 18e et 19e siècle sur cette route de l'esclavage. Les futurs déportés s'arrêtaient dans le village de Kanganyanzé pour se purifier dans une rivière avant le grand départ. C'est un reportage de Benoît Almeras.
C'est une incantation comme une prière, le malheur derrière, le bonheur devant. Habillé de blanc, le visage barré de kaolin, Pascal se nettoie le front dans la rivière Bodo. Il en est l'un des gardiens.
Cet endroit est très sacré. Avant, c'était une piste de commerce. Ces esclaves, de partout, et arrivés dans ce village, ils ont préféré les laver ici. C'est-à-dire, c'est là où ils ont lavé les esclaves. C'est le seul village où ils ont lavé les esclaves. C'est un bain purificatoire de l'oubli.
L'eau de la Bodo était censée effacer la mémoire des esclaves, un rituel et une étape sur le chemin de Kaplaou, point d'embarquement vers les Amériques. Kanganyanzé est le premier site de traite négrière officiellement reconnu en Côte d'Ivoire. Une stèle y est dressée depuis 2017 entre la route et les bananeraies. Les visiteurs sont rares. Audrey est venue d'Abidjan à 120 km de là. Elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire.
Je suis venue, j'ai vu l'endroit. Oh. Ça m'a touché parce que je me suis dit, mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a ces gens d'endroit qu'ils ont fait les travaux forcés, esclavage. Bon, moi, ça m'a fait un peu bizarre. Juste quand j'ai eu les larmes, j'ai eu la chair de poule.
Depuis 2016, la Côte d'Ivoire a intensifié la recherche pour cartographier les routes de l'esclavage.
Les itinéraires ont été identifiés, les ports d'embarquement, les auteurs, quels sont ceux qui étaient les acteurs de cette traite-là.
Hélène Timpoko, qui est donc abhorrée, est conseillère technique au ministère ivoirien de la Culture. Pour l'archéologue de formation, les fouilles doivent se poursuivre, notamment sur le littoral. Plus important pour elle, l'esclavage est aujourd'hui intégré dans les manuels scolaires.
L'État a fait introduire des titres comme les routes de la traite et puis les conséquences économiques, sociales et démographiques. C'est une histoire qui est très 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 importante. C'est résister que de connaître, que de se souvenir.
Une autre stèle commémorative a été érigée à Laoukpanda, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Elle attend son inauguration officielle. Benoît Almeras, Tiassalé, RFI.
Et l'actualité, c'est aussi le Festival de Cannes qui touche à sa fin, clap de fin demain, où le jury présidé par Juliette Binoche, comptant dans ses membres le documentariste congolais Dieudo Amadi, décernera ses prix, notamment la prestigieuse Palme d'Or. Événement mondial, Cannes, plus de 4000 journalistes venant de 90 pays, et parmi eux, quelques professionnels d'Afrique subsaharienne, comme David Hervé Onla. Il est le fondateur du site culturel Oxygène Mag, basé au Burkina Faso. Il vient depuis plusieurs années invité par le festival et il raconte son parcours au micro de Sophie Torlotin.
J'ai créé mon journal en ligne, Oxygène Mag, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au festival de Cannes, en postulant comme tout le monde. Et puis ils ont estimé que bon, comme c'est le Burkina Faso, c'est quand même un pays qu'on a besoin d'envoyer un peu le cinéma mondial du côté du Burkina Faso, encore qu'il y a le FESPACO. Donc ils ont saisi l'occasion pour que moi je puisse venir faire des reportages sur le festival de Cannes. Et puis Ouagadougou, le Burkina Faso, maintenant je suis le seul depuis 4-5 ans qui vient ici. Hein. De la sous-région, nous sommes deux, j'ai rencontré un confrère ivoirien qui est là. De la sous-région, journaliste, Afrique de l'Ouest, nous sommes deux. Ce qui fait un peu la patriotique, moi je viens, c'est pas seulement le cinéma africain qui m'intéresse. Moi je suis venu faire des reportages sur le cinéma mondial. Je pense que ça intéresse même le fait que je parle des autres producteurs étrangers. Nos réalisateurs, grâce au FESPACO, on les connaît. Donc pour eux, rencontrer le Robert De Niro, Denzel Washington, c'est incroyable. Il y en a beaucoup même, c'est l'attraction majeure, c'est ce qui les intéresse. Faire un reportage sur un film que j'ai vu de Chris Pagli, par exemple, c'était, ils ont aimé.
Voilà David Hervé Onla, le fondateur du site culturel Oxygène Mag du Burkina Faso, au micro de Sophie Torlotin. Et puis bien sûr, RFI vous proposera demain une émission spéciale sur la fin du Festival de Cannes et la remise de la fameuse Palme d'Or. On enchaîne avec la musique dans Afrique Soir et ce jeune chanteur franco-camerounais Yamé qui sort un nouvel album. Celui qui a une voix très particulière, vous allez l'entendre, s'était fait remarquer avec le titre « Bécane ». En 2023, un mélange de rap, de jazz, de soul, ce titre lui a valu un succès fulgurant. Une victoire de la musique aussi. Le morceau Shoot fait partie de son prochain disque, Ebem, dont la sortie est annoncée pour le 13 juin.
Ne prends pas la tête. Je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux, c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans la reine. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'inspire. T'es comme l'hyperactif. J'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Hey. Demain j'arrête, c'est sûr, j'arrête ce cali. C'est qu'une balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête. Ma gueule ça joue, joue, joue. J'ai toujours su quel était ton prix. Mais encore une fois, juste une dernière dose. Faut continuer de faire des sorts. Que daron plus qu'il débellise. Je m'inquiète, sa santé se fragilise. Donc une dernière fois, je me carbonise.
Le jeune chanteur franco-camerounais Yamé, Philippe Le Caplain, c'est dans la playlist hein, RFI et sur les plateformes si vous voulez écouter ou réécouter ce morceau.
RFI.
À écouter ce soir sur RFI après le journal qui va arriver. Ici l'Europe qui recevra Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Priorité santé, il sera question de l'anémie, véritable problème de santé publique chez les femmes en Afrique subsaharienne. Tout savoir sur cette maladie, ce sera après le journal de 3h. Une heure plus tard, 8 milliards de voisins. Avec la fatigue, la charge mentale et la pression à la performance, le retour des femmes au travail après un congé maternité peut être compliqué. Et puis, il sera question une heure plus tard, avec le témoignage de Gladys qui a 36 ans, de justement cette difficulté pour les femmes en congé maternité. Ses jumeaux viennent de souffler leur première bougie. Elle a repris le travail très récemment, il y a 2 mois. Elle qui travaille comme chargée de projet au sein d'un institut de financement. Elle racontera la nuit prochaine comment elle a appréhendé cette reprise. Ce sera au micro de notre reporter Charlie Dupion. Voici donc quelques-uns des rendez-vous pour les ramener.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Apprendre aux jeunes en milieu rural à profiter des opportunités professionnelles de leur région au lieu de partir vers les grandes villes. C'est l'objectif du Centre Cœur Yakar au Sénégal. Nous serons avec les élèves de ce lieu de formation qui associe agriculture, élevage et hôtellerie.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. Carrefour du Maghreb.
La poésie pour raconter l'intime et la guerre.
Juliette Rangeval.
Avec la poétesse marocaine Rim Batal et l'écrivain algérien Mohamed Kassimi, exploration des écrits d'autrices palestiniennes qui disent à travers leur corps les ravages du conflit en cours et le poids du patriarcat.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée
Pierre-Edouard Deldic.
Nous allons parler des jours heureux symbolisés par le Conseil national de la résistance avec notre invité Claire Andrieux.
Les jours heureux peuvent faire référence à la chanson passée par la radio dans les années 30 au moment de la candidature de Roosevelt qui arrivait avec son projet de New Deal. Et entre le New Deal et le programme du CNR, il y a une certaine filiation.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.
Bom dia, ici c'est Gabriela Lima, artiste brésilienne, et je vous donne rendez-vous le 27 mai au studio de l'Ermitage à Paris pour fêter la sortie de mon nouvel album Sabor Solaire, en partenariat avec RFI Talent. Ça commence à 20h30 et je compte sur vous.